terror states.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 184e émission, au sommaire de laquelle on parlera du Tour de France, l'Inagora, mais de l'Inagora tout court. On entamera aussi un tour des entreprises du numérique libre du coin. Et puis l'indispensable revue de presse de l'April nous accompagnera pour la semaine 44. C'est Alexandre Zapolski, fondateur et PDG de l'Inagora, qui répondra à nos questions, puisque le Tour du France du logiciel libre organisé par l'Inagora fait étape à Montpellier ce jeudi 14 novembre. Donc on parlera un petit peu de l'histoire de l'Inagora, des divers événements de l'actualité 2013 et puis de cette journée particulière. Depuis le temps qu'on parle de logiciel libre et du modèle économique qui vont avec sur Divergence Numérique, il était temps que nous entamions un tour de Montpellier, un tour du département, un tour de la région, allez savoir où cela nous mènera, des entreprises de services en logiciel qui font du logiciel libre, y contribuent, se sont créées autour ou éventuellement ils sont venus après. Donc c'est Atim Bekali de la société Siloé qui viendra nous parler de son expérience. Le fil musical d'aujourd'hui était plutôt détendu et latin. Santiago Louvette, musicien, compositeur et producteur argentin, mais il n'est pas dit que nous ayons le temps d'en écouter beaucoup. Pour l'heure, tout de suite, sans perdre de temps, plus avant, la revue de presse de l'April pour la semaine 44.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 44, année 2013. Salut Manu.
Ah Luc, ça fait plaisir de te revoir. C'est génial. De retour à Paris, enfin.
Et oui, j'ai failli rester. Là-bas, il faisait entre 25 et 30 degrés.
Mais la météo est géniale à Paris, là. Bon, pour ceux qui ne sont pas exactement là où on est, il pleut, certes, mais c'est vraiment agréable.
De toute façon, je ne suis pas sorti depuis 4 jours parce que j'ai chopé la grippe. Donc, le retour était absolument super. Mais bon, parle-nous plutôt du summer.
Alors, un magnifique summer, heureusement. Justement, on va parler de biohacker, d'alliance de mails pour chiffrer ses mails, des codecs vidéo, de téléphones en kit, des Anonymous et la NSA, et pour finir, Mozilla et un service de géolocalisation sans GPS.
Numérama, un biohacker, glisse un gros implant open source DIY dans son bras, un article de Guillaume Champeau.
DIY, ça veut dire do it yourself, donc c'est un implant qui a été fait et implanté par lui-même et son pote, quoi.
Voilà, bon là je dirais plutôt do it yourself, ou plutôt ne le faites pas vous-même, voire ne le faites pas du tout. Ce gars s'est fait mettre sous la peau un super implant qu'il a bricolé lui-même, qui a quand même la taille d'une calculette, donc c'est absolument énorme.
Ça a à peu près la largeur de son avant-bras.
Et comme le machin il l'a fait lui-même, c'est pas homologué, donc aucun chirurgien n'a voulu l'implanter. Donc il est obligé de le faire faire par un pote à lui qui est spécialiste dans les transformations corporelles.
Un tatoueur, quoi.
Voilà, enfin avec des trucs où ils mettent des choses sur la peau, c'est des techniques qui existent, mais là évidemment c'est beaucoup plus gros. Et ils ont fait ça à l'ancienne avec des méthodes d'anesthésie un peu barbares, quoi.
Vive les glaçons et l'alcool.
Donc c'est absolument abominable. Il a
Moi j'aime bien parce que c'est fait par lui-même, il s'est pris en charge, c'est pas l'État ou une entreprise qui lui a implanté un truc contre sa volonté.
Enfin, faut dire qu'actuellement, ça arrive quand même pas très souvent de se faire implanter des trucs sous la peau par l'État.
Ah non, voir. Mais pour l'instant, là, le mec, il se prend en main justement pour montrer qu'il faut le faire tous pour s'adapter à la vie future et se prendre en charge.
D'accord, donc il faut faire maintenant soi-même des trucs que potentiellement on imagine que des vilains pourraient nous faire plus tard.
Il faut le faire parce que effectivement c'est le progrès et cette photo le démontre. Je vous recommande d'aller voir l'article, ne serait-ce que pour ça.
Je suis aveugle depuis que je l'ai vu, mais ça sert à quoi cette calculette?
Alors c'est magnifique usage. Il semblerait que pour l'instant ça lui permet de mesurer sa température corporelle. Oui, alors il y a du travail pour miniaturiser le bousin et pour que ça mesure aussi attention, et aussi qu'il y ait des petites LED pour éclairer par en dessous la peau, ça peut être très joli.
Mais quelqu'un lui a expliqué qu'on peut prendre la température de l'extérieur.
Oui, à mon avis, c'est possible. Mais là, bon, c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire. Certes, la cicatrice n'est pas droite, certes, les fils, les gros fils, n'ont pas l'air d'être faits de manière assez semblable les uns entre les autres, mais voilà, lui, il montre qu'on peut se prendre en main et qu'on peut le faire nous-mêmes, c'est un peu la philosophie des logiciels libres, on peut qu'apprécier, voyons.
Oui, d'ailleurs, tu vas t'y mettre bientôt.
Exactement. Enfin, incessamment sous peu, je vais voir. Peut-être qu'on peut gérer ce genre de truc. Bon, on va en reparler. Je suis sûr qu'il y aura d'autres articles dans le futur parce qu'il y a plein de gens qui vont s'y intéresser et qui feront plein d'applications super intéressantes.
Bien entendu. Le monde informatique, Darkmail Alliance, la messagerie chiffrée de Silent Circle et Lavabit. Un article d'Adrien Geneste.
Donc, il s'agit de fournisseurs de mails, de messagerie, qui sont connus parce qu'ils ont notamment travaillé avec Edward Snowden, qui avait besoin de sécurité, de chiffrer ses mails, parce que il était un peu surveillé par les plus grosses instances mondiales de la surveillance.
Et oui, la NSA, et donc ils sont en train de travailler une proposition pour réagir à cette question de la surveillance généralisée mise en place par la NSA et que Snowden a révélé. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour faire face à ça. On a sans doute cité le projet Calliope qui se fait en France, qui a fait pas mal de bruit et qui aujourd'hui est un peu envieuse, on va attendre de voir ce qui en sort. Et là, en gros, eux arrivent avec quelque chose de différent qui consiste un peu finalement à tuer le mail.
Alors oui, c'est une évolution parce que le mail, c'est un truc des années 70 qui n'a jamais été vraiment pensé pour être secure. Et donc aujourd'hui, on peut entendre et...
Voilà, ils disent que le mail, ça a été construit, fait à une époque où tout le monde se connaissait sur Internet, c'était des universitaires, ils n'avaient pas de raison de se méfier les uns des autres.
Et donc aujourd'hui, on peut certes chiffrer son mail, mais on aura quand même les métadonnées, on pourra quand même savoir qui a envoyé à qui et quand, et ce qui est quand même une donnée qui peut être pertinente. Et donc là, eux, ils veulent partir sur du décentralisé, des protocoles qui s'appellent XMPP, qui sont souvent utilisés pour le chat, mais qui vont permettre justement de faire des choses que des gens comme la NSA ne pourront pas écouter, ou très difficilement.
Alors on sait que dans XMPP, il y a plein de choses. Enfin, il y a effectivement du chat, c'est ce qu'utilise par exemple Gtalk, le module de chat de Gmail. Mais ce truc, ce protocole fait plein de choses, ce qui est intéressant, ce qui veut dire qu'on fera peut-être plus que de la messagerie avec leur truc. Et ce qui est très intéressant et ce qui va dans le bon sens, c'est qu'ils ne vont pas mettre en place un système à eux fermé, verrouillé, sécurisé parce qu'ils en contrôleraient le fond. C'est que les clés qui vont permettre d'échanger, elles sont possédées par les gens, elles sont changées régulièrement pour qu'on ne puisse pas les découvrir. Et n'importe qui pourra se brancher sur ce réseau-là. Donc c'est pas un réseau fermé en disant « venez chez nous, vous serez sur un réseau sécurisé ». C'est un réseau sur lequel n'importe quel acteur peut venir, n'importe quel fournisseur de logiciels ou de services peut venir se brancher, comme le mail aujourd'hui. Donc on reste dans quelque chose d'interopérable et d'universel.
Je rajouterais, ce sont des gens qui connaissent bien le sujet parce qu'eux-mêmes proposaient des solutions de chiffrage, mais ils ont été obligés de fermer parce que la NSA est arrivée avec des papiers, avec des avocats et avec les forces de l'ordre, et qu'ils voulaient implanter à leur sein des portes dérobées, on va dire. Et aux États-Unis, eh bien, on ne peut rien dire contre ça, donc eux, ils ont préféré fermer. Donc, a priori, on peut leur faire confiance et ils partent sur des bases intéressantes, c'est le moins qu'on puisse dire.
De toute façon, les protocoles qu'ils utilisent, etc., sont des protocoles ouverts. Donc, une fois que ce sera mis en place, on peut vérifier comment ça marche, et c'est tout l'intérêt du logiciel libre. PC Impact, Cisco ouvre son codec H264 et marche main dans la main avec Mozilla, un article de Vincent Herman.
Alors les codecs, on en a déjà parlé dans le passé, c'était un enjeu assez formidable, il y a eu une guerre des codecs il y a pas si longtemps.
Voilà, le codec, hein, c'est ce petit bout de logiciel qui va permettre de lire une vidéo et de dire voilà, comment elle est codée, comment on arrive à la lire ou pas. Et on sait que c'est un enjeu énorme et qu'il y a eu des guerres assez importantes. Évidemment, si on arrive avec un codec fermé, propriétaire, complètement secret, on peut déjà gagner pas mal d'argent et essayer de contrôler des informations très populaires. On peut penser par exemple à YouTube ou des choses comme ça.
Donc là, pour le coup, H264, c'est contrôlé par un consortium. Il y a des brevets, il y a des droits d'auteur, il y a des standards qui sont difficiles à implémenter.
Alors, ils disent qu'ils respectent le principe de FRAND. Qui veut dire...
Alors, fair and...
reasonable.
Non-discriminatory, je crois.
Voilà, donc l'idée, c'est OK, c'est propriétaire, c'est fermé, etc. Mais on est des gentils, on ne vous fera pas payer une fortune et en mettant des conditions d'utilisation impossibles. Donc, c'est en gros, c'est fermé, mais c'est utilisable.
Sauf que dans le logiciel libre, nous, non.
Parce que reste quand même trop cher et notamment Mozilla n'a pas les moyens de mettre ça dans Firefox.
Donc là, il y a Cisco qui est quand même une grosse entreprise du net.
Très grosse entreprise qui fait des routeurs, enfin vraiment des trucs d'infrastructure de réseau.
Et eux, ils ont du code, ils ont dû suivre justement toutes ces directives, tous ces brevets, mais on suppose qu'ils ont payé. Ils proposent de permettre à Mozilla d'intégrer leur codec et leur lecteur de codec dans Firefox.
En gros, ils vont faire leur propre version du codec, qui sera sous licence libre, sous une licence BSD. et qui permettra à Firefox, notamment, et probablement d'autres, de bénéficier de tout ça. Alors, l'article ne dit pas, mais on suppose que c'est pour contourner justement les règlements. Ils ne vont pas simplement donner le code à Firefox, parce que sans doute devrait-il payer, mais Firefox va pouvoir aller appeler ce module à chaque fois qu'il en aura besoin.
Alors, ce ne sera qu'à la demande, ce qui est peut-être moins pire qu'autre chose, mais en gros, il faudra qu'il télécharge un module binaire. Et ça, c'est rageant, parce qu'un module binaire, c'est le moyen de faire rentrer des choses qu'on ne contrôle pas sur son ordinateur. Donc, moi, je proposerais plutôt d'aller vers WebM ou OGG, qui sont d'autres standards, qui marchent assez bien, qui sont déjà implémentés par Firefox et Chrome et d'autres.
Blog lemonde.fr, ARA, le téléphone en kit durable, libre et co-créé, un article d'Anne-Sophie Novel.
Alors, ARA, c'est un nouveau projet qui se lance et qui serait supporté en grande partie par Motorola, c'est-à-dire Google.
Oui, Google a racheté Motorola. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que il y a un designer qui avait lancé il y a quelques semaines une sorte de projet tout à fait comparable à ça, en disant, regardez, ce serait super si notre téléphone pouvait venir en kit, c'est-à-dire qu'on avait des modules et qu'on les assemble comme des briques de Lego sur une plaque pour avoir le téléphone dont on a besoin. Puis le jour où on pète un morceau, par exemple quand on a l'écran qui casse, on change juste l'écran, on n'a pas besoin de tout modifier. Et si on a besoin de plus de mémoire, on change juste la mémoire, etc.
Alors ça s'appelle le PhoneBlock, hein, il me semble. Il y a une jolie petite vidéo, vous pouvez aller jeter un œil dessus, qui est dans l'article.
C'est très explicite. Et il s'avère que Motorola avait un projet équivalent dans les cartons. Et qu'ils ont vu le timing, soit ils avaient prévu effectivement d'en parler, soit ils se sont dit, oh bah, on va pas se faire couper l'arbre sous le pied, on est dessus, et ils ont fait la démo en question.
Donc c'est des bonnes idées, et on peut vraiment apprécier. L'ultime bonne idée de tout ça, c'est que c'est proposé en matériel libre, probablement pour qu'il y ait le plus de monde qui se mette derrière, des entreprises qui puissent proposer des composants, des blocs, et qui puissent ensuite permettre de les monter comme des Legos.
Alors c'est assez rigolo, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé dans le monde du PC.
Il y a 30 ans, maintenant.
Voilà, du vrai PC de bureau, etc. Où on peut le faire encore aujourd'hui, hein, acheter des pièces faites par n'importe quel constructeur, les assembler, puisque tout ça est standardisé, et on arrive à avoir des systèmes qui fonctionnent ensemble. Alors, on a quand même des évolutions, des trucs où on va avoir des rétrocompatibilités qui vont pas fonctionner. Mais grosso modo, aujourd'hui, on peut composer son propre ordinateur. Ça demande pas énormément de compétences techniques. Et tout ça marche quand même plus ou moins bien.
Oui, tout ça pour combattre aussi l'obsolescence programmée qui est mise en avant dans la petite vidéo, parce que les gens vont jeter leur téléphone tous les 2 ans, par exemple. Ce sont quand même des grosses pièces qui coûtent cher et qui ont des composants et des matériaux qui ne sont pas forcément très écolos. Et donc pouvoir juste changer ce dont on a besoin, c'est une très très bonne idée, c'est économique.
Le cercle Les Échos, Anonymous are wrong, NSA is right, NSA je devrais dire, par Éric Mahé et Jean-Marie Chauvet.
Donc NSA, No Such Agency, Anonymous, ce sont des gens qui n'existent pas non plus.
Oui, alors l'article, c'est une tribune, hein, c'est un article d'opinion qui est écrit sur ce site. Alors le titre est un petit peu provocateur, et en fait c'est un petit peu l'inverse de ce qu'il veut dire, on s'en doutait.
Oui, c'est-à-dire que les Anonymous ont tort, la NSA a raison.
Et en fait, ce que fait remarquer l'article, c'est que les Anonymous, qui ont toujours été assez prompts à réagir au Big Brother et à aller casser les pieds des grands de ce monde sur cette affaire, ils sont extrêmement discrets.
On n'en a pas du tout entendu parler, même.
L'article rappelle qu'ils n'ont jamais attaqué la NSA, probablement qu'ils n'en avaient pas les moyens ou qu'ils s'en faisaient repérer, et que si aujourd'hui ils disent rien, il y a 2 solutions, c'est que soit ils n'ont pas les moyens, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens, ils se taisent, etc., soit ils sont en train d'essayer de préparer quelque chose.
Alors, encore une autre possibilité, c'est qu'ils soient d'accord, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément crédible. Oui. Donc moi j'aime bien parce que c'est un troll.
Voilà, oui, c'est un troll, mais du coup ils disent, quand on voit la virulence qu'ont pu avoir les Anonymous sur ce genre de choses, et qu'on voit le silence qu'ils ont aujourd'hui, ça démontre, enfin, la violence qu'ils ont pu avoir et la pertinence, ils ont quand même réussi à rentrer sur des sites internet et vraiment à casser des tonnes de trucs.
Y compris la série, hein, c'était un des gros exemples. Alors, c'est pas Anonymous, c'est un autre groupe, mais c'est quasiment dans les mêmes mouvances. Hein.
Voilà, donc quand on voit tout ce tableau de chasse et ces trucs qu'ils ont fait, le silence et leur incapacité aujourd'hui à faire ça montrent à quel point la NSA peut être puissante par rapport à des grosses entreprises ou des administrations qui souvent ont été tournées en ridicule par les Anonymous en disant « vous êtes vraiment des mauvais et on vous a percé de part en part parce que vous n'êtes pas bon ».
Ça va loin, hein, parce que la NSA, on peut même supposer qu'ils contrôlent beaucoup des algorithmes de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui, par exemple SSL. Et oui, peut-être bien qu'ils savent lire facilement les flux chiffrés sur Internet. Et donc, les Anonymous n'utilisent pas autre chose aujourd'hui, hein, pas vraiment. Il y a même des éléments de logiciels qu'on utilise et que les Anonymous utilisent qui sont faits par la NSA. Thor en est un exemple, parce qu'en fait, Thor a été une des initiatives qu'ils ont lancées il y a déjà quelques temps, qui les embête un peu, soi-disant, mais ben, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment jusqu'à quel point ils contrôlent notre informatique. Ils ont des portes dérobées un peu partout, des chevaux de Troie. Donc c'est un peu embêtant, effectivement, les Anonymous sont silencieux.
Le monde informatique, Mozilla promet un service de géolocalisation sans GPS, un article de Adrien Geneste, encore lui.
Donc c'est une petite proposition d'innovation, d'utiliser plein de matériel dans lesquels on tourne aujourd'hui, les bornes Wi-Fi, les moyens téléphoniques et je ne sais, pour essayer de donner une localisation physique à un matériel ou à des personnes.
Voilà, l'idée c'est de ne pas utiliser de GPS, et c'est de mesurer en gros le paysage au niveau de tous ces émetteurs, puisqu'aujourd'hui on a des émetteurs dans tous les coins, et si on a une cartographie de ces émetteurs et qu'on est capable de mesurer leur puissance à l'endroit où on se trouve, par triangulation, on peut déduire sa position. Donc la proposition de Mozilla est vachement intéressante, c'est de dire, en gros, on va essayer de collecter, ils appellent un peu les gens à participer, à collecter des données là-dessus. Donc il ne s'agit pas d'avoir les informations de ce qui passe sur ce Wi-Fi ou quoi, c'est juste s'en servir comme un phare, en fait. On dit, tiens, je reconnais tel Wi-Fi, donc je dois être à telle position à peu près. Et donc, moi, je trouve ça vachement bien parce que c'est très innovant. Et souvent, on a un peu l'impression que, et c'est une chose qu'on entend parfois, hein, que le logiciel libre est toujours un peu à courir derrière le propriétaire. Alors, Mozilla, ils ont des moyens, donc ils ont innové très souvent et sur beaucoup de choses. Et là, c'est quand même intéressant de voir ça. J'aime beaucoup.
Donc, ils ont besoin de monde parce que ça va prendre du temps et des efforts, justement, de localiser tous ces phares dans lesquels on tourne. Et il faut peut-être aller participer un peu comme OpenStreetMap pour localiser tout ça au mieux. Je rajouterais, je crois que c'est toi qui m'en as parlé, on pourra localiser plus facilement les gens, y compris en intérieur, ce que ne fait pas le GPS.
Et oui, le GPS, c'est un signal qui descend de l'espace depuis les satellites vers la Terre, donc évidemment, si on est en sous-sol, dans un parking souterrain ou dans un centre commercial, évidemment, tout ça, ça passe pas, donc on peut pas être localisé par un GPS en intérieur. Or, là, il s'agit juste d'une cartographie de Wi-Fi, donc ce sera tout à fait faisable. Bon, je sais par ailleurs, c'est pas dans l'article, donc vous avez des infos de première main, que Apple est en train de travailler là-dessus aussi. Ils sont en train de réunir des acteurs, etc., pour avoir des infos. Donc, c'est probablement une des fonctions qui va venir dans les années qui viennent, ou très prochainement, et qui va faire pas mal de bruit.
Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Manu, merci, et au revoir tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. La revue de presse de l'APRIL, c'est aussi dans Divergence numérique tous les jeudis à 12h30 et 17h30.
Et on les remercie pour cette revue de presse. Alexandre Zapolski est le fondateur et le PDG de l'Inagora dans le cadre du tour du logiciel libre qui fait étape à Montpellier ce jeudi 14. Il répond à nos questions. Une initiative de la société l'Inagora, une des plus importantes sociétés de services en logiciel libre en France. Un tour de France qui vise à enfoncer le clou de la directive du Premier ministre conseillant l'utilisation des logiciels libres dans les administrations et les collectivités. La mise au catalogue de l'UGAP des solutions L'Inagora fait aussi l'objet d'une présentation dans ce Tour de France qui permet aussi et surtout de voir où on en est grâce aux interventions et aux retours d'expérience des DSI locales. Nous sommes au téléphone avec Alexandre Zapolski, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors on vous reçoit, on vous avait déjà vu à Montpellier, c'était lors des 10 ans de l'Adulacte, il y a quelques mois déjà. Et là on vous a au téléphone pour parler un petit peu de l'Inagora, mais surtout dans le cadre du Tour de France du Libre que vous avez organisé et qui amène ce Tour de France à une étape Montpellier-Rennes ce jeudi 14 novembre. Peut-être pour présenter un petit peu, c'était dans les années 2000-2002 que vous créiez l'Inagora avec Michel-Marie Maudet. Depuis, l'Inagora a grandi, c'est une société de services en logiciel libre, même si on a entendu récemment que maintenant il allait falloir les appeler les entreprises du numérique libre, bref. Et puis au fil de premiers marchés d'industrialisation, de premiers grands contrats, et puis de la consolidation dont vous avez su faire preuve, on arrive à la fameuse déclaration du Premier ministre en faveur du logiciel libre. Maintenant, vous êtes souvent des voyages présidentiels pour aller
aller prêcher la bonne parole du logiciel libre pour l'Inagora aussi, qui a su se développer, compte aujourd'hui à peu près 150 salariés ou collaborateurs, voilà, et qui se délocalise sur le continent nord-américain, donc qui a le vent en poupe, on peut le dire comme ça.
Alors, on se délocalise pas, hein. On investit temps, ouais. Et on exporte, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et ça quand même, et la différence principale, c'est que l'ensemble de nos équipes aujourd'hui de recherche et développement, par exemple, sont en France, restent en France, et j'envisage pas un seul instant de substituer un emploi de l'un de nos ingénieurs français par un ingénieur, qu'il soit canadien, américain, vietnamien ou tunisien ou je ne sais de quel pays. Donc, c'est pas de la délocalisation, c'est vraiment de l'investissement. Moi, je crois que le numérique, et en particulier l'open source dans le domaine du numérique, on a vraiment de très très bonnes solutions et on a de quoi exporter. Et en tout cas, le numérique français ne mérite pas la faible part en termes d'export qu'il a aujourd'hui. Il faut qu'on fasse plus que ça. D'ailleurs, dans votre petite présentation que vous avez oublié d'omettre, présentation très complète, c'est que également je suis très investi au niveau globalement du numérique et notamment dans Syntec Numérique. Je suis l'un des administrateurs de Syntec Numérique. Et j'ai initié la commission internationale qui a justement pour vocation d'aider nos entreprises du numérique à se développer plus à l'international et à développer plus l'export. Et je co-préside en fait cette commission avec Pierre-Yves Comanet qui est l'un des dirigeants de l'entreprise Sopra. Mmh. Est-ce que je peux juste revenir sur 2-3 éléments de votre présentation ?
Absolument.
Merci Gilles. Alors, bon, vous disiez société de services en logiciel libre. C'est vrai qu'on est en 2000 à l'origine en fait de cette appellation et de ce terme-là, et c'était effectivement le métier principal de l'Inagora, jusqu'en 2006-2007. Depuis, on a très largement investi en innovation et en recherche et développement, et aujourd'hui, l'Inagora, c'est bien plus un éditeur de logiciels qu'uniquement une société de services en logiciel libre. Il y a plus de 40 personnes qui travaillent chez nous en recherche et développement, principalement à Paris, mais pas que, à Lyon, à Marseille. On a aussi un collaborateur à Montpellier, donc c'est une ville qui nous est chère aussi pour ça, parce qu'en fait, on y trouve de très très bons ingénieurs. Et donc voilà, on a des activités de recherche un peu partout en France. On a d'ailleurs ouvert très récemment un laboratoire conjoint avec une université qui est l'université Joseph Fourier à Grenoble. Et donc c'est un premier laboratoire public-privé en R&D open source, et j'en suis très très fier. On n'a pas encore fait d'annonce sur le sujet parce que pour l'instant on est en train de caler les dispositifs et concrètement les équipes sont en train de s'installer dans l'université, mais prochainement c'est un sujet sur lequel on va communiquer. Voilà, donc un éditeur de logiciels libres. Et puis si j'accompagne effectivement, alors pas souvent, j'ai eu l'opportunité effectivement d'accompagner une fois le Premier ministre, une fois le Président de la République dans leur cadre de leur voyage officiel, c'est moins pour parler de l'Inagora que pour porter effectivement la voix des entreprises du numérique globalement et plus particulièrement celle de l'open source. Et ce que je peux vous dire, c'est que Dans tout ce qui est en train de se passer avec un gouvernement qui a 25% de bonne opinion favorable, etc., ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une équipe gouvernementale qui est très attentive au développement de nos PME, au développement de l'innovation, et qui est vraiment là pour nous aider et pour nous faire grandir à l'international. Voilà. Mmh. Donc, effectivement, moi, je suis plutôt soutien de la politique gouvernementale en faveur de l'innovation et de l'aide qu'ils octroient aux PME et en particulier aux PME innovantes. Et puis c'est des gens très accessibles. Moi j'ai été très surpris par Jean-Marc Ayrault par exemple qui est effectivement très accessible. Mais on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour parler de logiciels libres et notamment effectivement de cet événement qui aura lieu très prochainement à Montpellier.
On va y venir, mais vous me tendez la perche en évoquant le Syntec numérique et puis on va dire l'action du gouvernement. On l'a vu pour l'enseignement supérieur et la recherche. On va dire que le message a été compris. Pour l'étape précédente, celle justement de la loi sur la modernisation de l'école, il semblerait que sans vous en informer, le Syntec numérique ait pris on va dire parti et fait force lobbying pour faire reculer le législateur. Sur cette loi particulière.
Bon, écoutez, j'ai beaucoup d'estime pour le Syntec numérique et pour le travail qu'on mène avec l'ensemble du conseil d'administration, pour le travail que mène en fait notre président Guy Mamoumani. Et j'aimerais effectivement pouvoir imaginer que seul le Syntec numérique puisse faire prendre ou ne pas prendre des décisions au gouvernement et puis faire en sorte que le Parlement vote en faveur d'un sujet ou d'un autre. On peut participer à la prise de décision publique, effectivement, comme syndicat premier, c'est le rôle aussi du Syntec numérique de s'exprimer dans l'intérêt en fait de ses membres. Mais naturellement, il n'est pas seul à faire brancher la balance dans un sens ou dans un autre.
Oui.
La preuve, hein, le Syntec numérique défendait pas plus la position pro-logiciel libre qui a été adoptée pour l'enseignement supérieur et la recherche, et vous le rappeliez, il était sur la même voie que sur le sujet de l'éducation, c'est-à-dire effectivement que le Syntec numérique, ce qu'il dit, c'est que, parce qu'il n'y a pas d'autre point de vue qui n'est pas effectivement le point de vue des acteurs de l'open source, qui n'est pas le point de vue de l'Inagora, puisque vous le savez, moi j'ai exprimé la position de l'Inagora tout à fait officiellement à travers un communiqué de presse. Oui. Donc nous, on est tout à fait en faveur que l'État prenne position en faveur du logiciel libre, comme il l'avait fait dans le cadre de la circulaire Hérault, hein, quand Jean-Marc Hérault a dit il faut favoriser le développement et l'usage de l'open source. Donc quand ces deux propositions sont arrivées au niveau du ministère de l'Éducation et puis au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche, qui disait à peu près la même chose, favoriser l'usage du logiciel libre pour construire les services numériques, les acteurs de l'open source et en premier lieu l'Inagora étaient favorables effectivement à de tels dispositifs et pas le Syntec. Et pourquoi? Eh bien parce que au Syntec, ce qui prévaut encore aujourd'hui, c'est un principe dit de neutralité et qui veut dire que le Syntec ne souhaite pas que l'État fasse a priori le choix de telle technologie au profit de telle autre ou de tel modèle économique au profit de telle autre. Ce qui est entendable pour une certaine partie de l'argumentation, c'est-à-dire que on imaginerait mal, par exemple, le Syntec numérique dire maintenant il ne faut que des projets en mode cloud et la seule bonne façon de faire, d'acheter du numérique, c'est de le faire à travers du cloud et donc des services SaaS, etc. On comprendrait pas une proposition qui serait celle-là de la part du Syntec numérique. Bon. Là où effectivement les gens de l'open source et l'écosystème open source ont une position qui est différente, c'est que le propos que nous on mène dans l'open source, c'est de dire oui, mais la situation est tellement déséquilibrée en faveur des grands éditeurs de logiciels traditionnels que si on rétablit pas des éléments de concurrence un peu plus libres, un peu moins faussés, si on rétablit pas un équilibre dans le marché, eh ben ces acteurs-là sont tellement présents, sont tellement puissants que on est dans un déséquilibre structurel qui fait que on a besoin que l'État intervienne pour recréer des conditions de l'équilibre. Et justement, la neutralité dont se prévaut un certain nombre d'acteurs et que essaie de défendre le Syntec numérique, si on veut l'atteindre, eh ben il faut qu'il y ait un rééquilibrage qui s'opère pour qu'il y ait cette neutralité. Donc, si vous voulez, on a bien finalement le même type d'objectif, mais on partage pas tout à fait les mêmes constats sur la situation présente. Mais vous savez, je pense vraiment que on a la nécessité de converger et de travailler en groupe. Et moi, j'ai choisi de m'investir dans les organisations existantes. Certains font le choix d'être à l'extérieur et de combattre ce qui existe déjà. Moi, j'ai toujours fait le choix de m'inscrire dans ce qui existait et d'essayer de faire progresser mes convictions et les points de vue que je défends à l'intérieur de ces organisations-là. Mais à partir du moment où j'accepte de jouer le jeu de ces organisations, eh bien, il faut que j'en accepte aussi les règles en matière de gouvernance. Et donc, il faut que j'accepte que le point de vue majoritaire soit pas forcément pour l'instant le point de vue que moi je défends. Et à partir de ce moment-là, je l'accepte et puis je suis capable de l'expliquer comme je viens de le faire auprès de nos auditeurs.
pour convaincre justement les alors que ce soit les collectivités, les collectivités territoriales, les administrations ou encore des entreprises qui n'ont pas encore migré, etc. Il semble bien que l'utilisation du terme open source soit souvent plus efficace que de logiciels libres. Alors pourquoi je dis ça, c'est que on a fêté récemment les 30 ans du projet GNU et Richard Stallman, en bon prof de vocabulaire qu'il sait souvent être, a rappelé sa vision des choses en disant que finalement les gens qui utilisaient le terme open source mettaient en avant l'aspect commode, l'aspect pratique du logiciel ouvert, on va dire ça comme ça, tandis que les gens qui disent logiciel libre mettent plus en avant l'aspect éthique du logiciel. Mais si je comprends bien, pour rester pragmatique et être efficace et convaincre, c'est un petit peu sur ce double vocabulaire que ça se joue.
Vous soulevez un point qui est intéressant. D'abord, moi, j'ai énormément d'estime pour Richard Stallman. Il le sait. C'est quelqu'un que je connais depuis presque aussi longtemps que j'ai souhaité entreprendre. D'ailleurs, chose assez rare, il avait accepté de témoigner dans l'une des publicités officielles que l'Inagora faisait, qui était justement sur ce sujet de la liberté, et bien sûr de la liberté appliquée en fait au domaine du logiciel. Et c'est vraiment pour moi une très grande fierté et un vrai signe d'amitié qu'il ait accepté, et un signe de confiance qu'il ait accepté d'accompagner en fait l'Inagora sur ce combat-là. Donc, un, je comprends parfaitement la position de Richard Stallman. Deux, je pense qu'elle est, il est tout à fait dans son rôle quand il rappelle la règle. Il est là pour lui être c'est le père fondateur hein, de ce mouvement du logiciel libre, et donc il est pas là pour être dans la transaction, il n'est pas là pour transiger, il est là pour redonner en permanence et répéter un assemblement d'où vient le logiciel libre, pourquoi il existe. Et lui, il mène un combat qui est essentiel, qui est le combat à la liberté de l'information et à la liberté de l'informatique, pour que les utilisateurs ne subissent pas l'informatique, mais pour que les utilisateurs maîtrisent l'informatique et tout ce que l'informatique produit, notamment en fait les données et les informations qui sont traitées en fait par l'informatique. Et ça, c'est juste essentiel, notamment au regard en fait de l'actualité qu'on a, Prism, et tout ce qu'a révélé celui qui aurait dû être prix Nobel cette année à mon avis, c'est-à-dire Snowden. Il est de tous ceux qui s'intéressent en fait au logiciel libre, à l'open source, il doit être en fait respecté. Mais néanmoins, ensuite effectivement, il y a le logiciel libre, c'est pas que un mouvement idéologique, c'est devenu aussi un vrai marché, un vrai business. Et il faut pas avoir peur en fait de ces termes-là. Et aujourd'hui, ça apporte aussi de la liberté aux usagers, aux utilisateurs, mais qui sont pas que des individus, qui sont aussi en fait des entreprises. Et pour elles, l'impact qu'a l'adoption du logiciel libre peut être tout aussi important et nécessaire que pour un particulier. Et donc, mais par contre, c'est moins, si vous voulez, cet enjeu absolu de liberté vis-à-vis de l'informatique qui rentre en ligne de compte, que sa capacité qu'ont les utilisateurs professionnels du logiciel libre d'être plus indépendants vis-à-vis en fait de ceux qui fournissent en fait la technologie, de mieux maîtriser leur rapport de force client-fournisseur, et finalement, eh ben, d'avoir plus de droits dans cette relation commerciale entre les fournisseurs technologiques et eux, les utilisateurs. Voilà. Mais plus de droits, c'est aussi plus d'obligations. Donc, le logiciel libre, c'est pas toujours très simple. Hein, moi, j'explique toujours que le logiciel libre, c'est pas magique. L'open source, c'est pas magique. Voilà. Mais c'est vrai que, donc c'est aussi pour ça que ça permet de faire tout un tas de travaux autour de schéma directeur open source, autour d'aide à la définition de l'usage stratégique. Hein, il s'agit notamment de réfléchir comment les grandes organisations, comment l'État, un ministère, peut adopter en fait le logiciel libre. Mais pour revenir en fait au sens de votre question, c'est vrai que par extension, dans l'univers business, on utilise assez communément les deux termes, logiciel libre ou open source, et à la fin fond, pour les entreprises, ça change pas fondamentalement les choses. Et moi, je suis pas là encore une fois pour compliquer le débat. J'ai tendance à dire à mes interlocuteurs que pour moi, les deux termes sont synonymes. Mais si on essaie d'être juste, les deux termes ne sont pas synonymes. Et effectivement, il faudrait s'obliger à utiliser le terme logiciel libre quand on parle en français.
C'est ce qui est assez passionnant aussi dans le monde du logiciel libre, c'est le fait que les libristes sont souvent ont souvent une grande culture juridique et du coup sont assez pointilleux sur la sémantique. Alors on l'a bien compris, il s'agit aussi de faire œuvre de pédagogie auprès de ceux qui devraient migrer ou qui se posent encore la question. En ce sens, le Tour de France du logiciel libre que vous menez dans plusieurs grandes villes de France depuis quelques mois déjà, je crois qu'il y a eu une pause pendant l'été si je me trompe pas, sert aussi à la fois c'est une opération de communication pour l'Inagora, mais en même temps c'est aussi l'occasion d'avoir des retours d'expérience de la part des responsables des DSI, des collectivités, puisque dans le cadre de ce qui nous amène ici ce jeudi 14 novembre 2013 toute la journée, dans le cadre de cette étape Montpellier-Rennes, il y aura évidemment il y aura Julien Faury pour l'Inagora qui est directeur des régions et qui viendra communiquer à 10h15, et puis il y aura aussi des gens qui parleront du marché de l'UGAP, comment mettre en œuvre du logiciel libre sans appel d'offres. Ça aussi c'était plutôt une grande victoire de cette année, et puis les associations présentes ainsi que les chefs de projet Open Data ou qu'ils soient de la ville ou de la région viendront un petit peu témoigner des choses qui sont en train de se passer.
Alors, vous avez raison, enfin, pour moi ce Tour de France du logiciel libre, ça faisait un moment que j'en avais envie. Moi, vous savez, je suis né à Toulon, ça s'entend peut-être avec mon accent, et je suis profondément attaché à mes racines provinciales, et je pense que toute la France et toute la vie n'est pas uniquement contingentée à Paris. Et donc, si vous voulez, j'en avais un peu assez que les grands événements aient lieu que à Paris, et que quand on veut parler de logiciels libres, eh ben il faut forcément demander aux gens de bien vouloir nous rejoindre sur Paris. Ce qui fait que par ailleurs un grand nombre en fait d'événements marchent de moins en moins, parce que les gens ont pas cette nécessité ont plus forcément envie de se déplacer pour aller entendre et écouter les Parisiens. Et moi je pense que les régions, elles sont en train de prendre en fait un sacré leadership et un sacré dynamisme, justement grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies d'information, et disons-le aussi grâce aux moyens aussi pour voyager beaucoup plus aisément. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire un événement sur Montpellier et d'avoir y compris des participants en fait de toute la France, parce que c'est facile de se déplacer jusqu'à Montpellier, ça l'est beaucoup plus qu'il y a effectivement 15 ou 20 ans. Bon, et donc cette journée, elle va être tout à fait essentielle là, cette journée donc du 14 novembre. Elle a lieu, et je tiens vraiment à les remercier, à la Maison du Numérique. Cette Maison du Numérique, elle est opérée par une association qui s'appelle Novae, qui est en fait une association dont l'objectif est de développer le numérique, les usages du numérique et l'écosystème du numérique en Languedoc-Roussillon. Hein, donc le Novae nous accueille, donc naturellement on laissera la parole à son président, donc Philippe Naoum, qui nous a vraiment fait la gentillesse de nous accueillir donc à cette Maison du Numérique. Et donc ça se fait avec Novae, et puis ça se fait aussi avec les équipes, et ça c'est souvent le cas, hein, quand on se déplace en région, on essaie de monter les événements avec ce qu'on appelle les groupes d'utilisateurs Linux, hein, les GUL, les groupes d'utilisateurs Linux, Montpel Libre, et puis également l'association régionale qui défend le logiciel libre, qui s'appelle la FRUL, F-R-U-L, la FRUL, hein, qui est la Fédération régionale
des utilisateurs de libre.
Logiciel libre. Alors je suis très content qu'on fasse ça avec Montpel Libre et avec la FRUL, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que ce sont ces gens-là qui vont organiser en 2014 les rencontres mondiales du logiciel libre. Elles auront lieu du 5 au 11 juillet à Montpellier. Et donc Montpellier va devenir la plaque tournante, si je peux l'exprimer ainsi, du logiciel libre en 2014 à l'occasion de ces rencontres mondiales du logiciel libre. Et l'Inagora aura bien évidemment à cœur d'accompagner les organisateurs dans la réussite de cette région. Et puis par ailleurs, c'est qu'en fait, il se passe beaucoup de choses en Languedoc-Roussillon. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette matinée là du 14 novembre, eh ben on aura à la fois le conseil régional de Languedoc-Roussillon qui viendra nous parler de son projet de migration LibreOffice et son retour d'expérience de migration Microsoft Office vers LibreOffice. Et puis on a également les gens de la ville de Montpellier et de l'agglo de Montpellier qui vont venir nous parler de ce qu'ils font dans le domaine de l'open data et comment, en fait, tout leur programme d'open data, en réalité, repose sur l'usage, en fait, de logiciels libres. Hein, et donc là, c'est Jérémy Valentin et Pierre Brice là qui vont intervenir, et c'est Jean-François Mangin qui est le directeur des systèmes d'information du Conseil régional de Languedoc-Roussillon qui va venir présenter son retour d'expérience. Donc vraiment une matinée très très riche qui va être extrêmement intéressante, et on fait ça avec des gens qui sont tout à fait essentiels dans le dispositif en Languedoc-Roussillon du côté de Montpellier. C'est bien sûr les gens de l'ADULACT. Et en l'occurrence, le bras armé de l'ADULAC, qui s'appelle l'ADULAC Projet, hein, qui est une SKIC, une société coopérative, qui, si vous voulez, gère les projets de mise en œuvre, notamment auprès des collectivités qui veulent en fait utiliser les logiciels issus, si vous voulez, de l'association ADULAC, qui est une association qui fédère les collectivités locales dans leur développement de nouveaux logiciels libres. Voilà. Et donc, ils ont en fait une entreprise du numérique issue en fait de l'ADULAC, et Pascal Fédel, qui en est le fondateur et le PDG là de l'ADULAC Projet, sera aussi avec nous. Donc on va vraiment avoir une très très belle matinée, et puis avec tous les gens qui écoutent Divergence Numérique, alors là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On va péter les scores. Et je pense qu'on va vraiment avoir une matinée formidable.
c'est gentil. Plus hexagonalement, j'imagine que finalement tout ce qui va rester de ce Tour de France, j'imagine qu'il y a une synthèse, un bilan. Ce sera riche d'enseignements, un enseignement qui pourrait profiter aussi à ce qui se passe au niveau du gouvernement.
Alors, vous avez raison de le souligner. Alors, il va d'abord venir aussi servir les états généraux de l'open source. Vous savez qu'au Syntec Numérique, avec l'ensemble des associations et des fédérations professionnelles de l'open source, et puis avec tous ceux qui l'ont souhaité, on a monté sous le patronage de Fleur Pellerin les états généraux de l'open source. L'idée étant de réfléchir à notre métier, à son avenir, aux conditions dans lesquelles on l'exerce, les enjeux en termes de formation, que peut faire en fait le secteur public et le gouvernement pour nous aider à développer plus et mieux notre écosystème, c'est quoi quelle serait une fiscalité positive permettant là encore une fois de dynamiser encore plus notre écosystème, qui est lui-même un écosystème très dynamique, comment nous-mêmes on peut rendre à la collectivité à travers notre croissance, à travers l'augmentation de notre capacité de développement international, comment on peut rendre en fait ce que la collectivité nous apporte. Bref, donc on aborde tous ces sujets-là à l'occasion des états généraux de l'open source, et naturellement les retours et les enseignements qu'on a déjà retiré, puisqu'on a déjà fait plus d'une dizaine d'étapes, effectivement, comme vous le rappeliez avant l'été. Il y en a encore un peu moins d'une dizaine qu'on réalise d'ici la fin de l'année. Donc, on aura fait une vingtaine de dates en l'espace d'un an. On va effectivement synthétiser ces rencontres, les attentes en fait de nos interlocuteurs. Mais ce qui est sûr, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a vraiment une dynamique très très forte au niveau de chaque région. Dans le domaine du numérique, c'est certain, et en particulier dans le domaine de l'open source. Et il y a beaucoup d'attentes pour que il se passe encore plus de choses dans les régions, que ces expériences soient mieux partagées, mieux entrecroisées. Et donc, on a un modèle français qui est encore très centralisé, et on voit bien que ce que nous disent nos interlocuteurs en région, c'est qu'ils attendent autre chose que uniquement des initiatives parisiennes, et que il faut prendre en compte les régions. Et donc c'est tout à fait ce que nous on essaie de faire en nous rapprochant de la vraie vie, hein, nos vrais interlocuteurs, bon, pour l'Inagora y compris de ses vrais clients, hein, que sont les collectivités locales territoriales qui sont partout en France, hein, et à Paris elles sont finalement peu nombreuses si on regarde.
Très bien, le rendez-vous est pris pour ce jeudi, c'est quartier du millénaire. Toutes les informations sont sur letourdulogiciellibre.fr, les mots séparés par des tirets. Alexandre Zapolski, merci beaucoup. On vous souhaite de bien terminer ce tour et que le développement du logiciel libre profite et s'étende.
Et rappelons juste que c'est bien évidemment gratuit, que c'est ouvert à tout le monde. Par contre, nécessite, s'il vous plaît, de passer par le site web pour s'inscrire au préalable. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci Divergence. Au revoir.
Divergence numérique sur le 93.9 de Divergence FM, sur les 103.3, 102.0 et 104.1 de Radio Escapade et sur les 87.8 et 98.6 de Radio Larzac. Nous entamons donc un tour de région des entreprises de logiciels libres et on commence par Montpellier, la société Siloé fondée par Atim Bekali. Bonjour Atim.
Bonjour Gilles.
Alors on va articuler un petit peu ces portraits d'entreprise autour du rappel sémantique de Richard Stallman lors des 30 ans du projet GNU, où il a souligné la différence de vocabulaire qu'il y a, selon lui, derrière logiciel libre et d'un autre côté open source, à la période historique où il est devenu plus commode pour certains d'utiliser open source pour négocier des contrats et plus militant pour d'autres d'utiliser logiciel libre pour insister sur l'éthique. Alors, la plupart des sociétés de services en logiciel libre ont une charte éthique assez forte, sinon ils ne feraient pas du logiciel libre, forcément. Est-ce que dans la fondation de Siloé, il y a eu cette question de se dire on va faire une société de services en logiciel libre parce qu'on a une éthique ?
À la création de Siloé, disons, la création même de Siloé, en fait, venait de la situation où j'avais quitté mon emploi. Et je cherchais un poste qui répondait à mes convictions, qui répondait à mes besoins de réalisation technique. Et le logiciel libre, tout ce qui tourne autour de Linux, c'était mon environnement de prédilection. L'aspect partage, l'aspect communautaire était aussi quelque chose d'important dans mes relations de travail à l'époque. J'ai cherché rapidement, c'était en 2004, quelques postes à Montpellier. Pour des raisons familiales, je ne pouvais pas changer de région. Et n'ayant pas trouvé, c'est vrai que je ne suis pas trop fatigué, mais dans le mois, en fait, n'ayant pas trouvé d'emploi qui correspondait exactement à ce que je recherchais, je me suis dit, quitte à travailler dans le livre, pourquoi pas essayer de monter quelque chose. Bon, les circonstances m'ont un peu aidé, c'est-à-dire j'avais un client, puis un deuxième qui m'ont demandé des petites prestations de quelques jours. Donc ça a nécessité au début un petit portage salarial, puis après déposer un SIRET pour pouvoir héberger un serveur physiquement et le posséder. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé devant le fait accompli. Voilà, je démarre une activité et dans ce cas, il faut prendre le temps de la construire, de la réfléchir. Et libre à moi d'imaginer un ensemble de prestations qui vont correspondre exactement à ma passion, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du logiciel libre, et y intégrer petit à petit tous les aspects éthiques du libre dans la réalisation du projet d'entreprise, dans la réalisation des prestations, tout en intégrant ce que j'ai découvert au fur et à mesure, la réalité économique de la gestion d'une entreprise. C'est clair que quand on monte un projet, il y a surtout principalement ce type de projet, il y a la passion, quand on est technique, on monte ce projet, il y a la passion qui prend le dessus. Et c'est qu'une fois qu'on commence à recevoir les lettres des URSSAF, les lettres des trésors publics, etc., qu'on se dit, il y a la passion, mais il y a quand même une réalité économique. Et là, il faut construire un modèle qui va concorder la plupart de ces éléments. Après, donc, je me suis rapproché de certaines structures existantes, de réseaux existants, pour voir m'informer comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et petit à petit, la construction a eu lieu, d'abord concentrée sur des éléments purement techniques. Après, transformer cette technique en offre, en mettant en avant tous les avantages du logiciel libre, en mettant en avantage toute la puissance de la communauté Linux qui vient m'épauler dans la réponse aux appels d'offres ou aux demandes. Et l'aspect communautaire, à ce moment-là, je m'appuyais dessus pour pouvoir rentrer chez des clients qui, eux, avaient d'autres prestataires potentiels, des grosses structures, etc. Après, il y a l'interaction avec tout l'écosystème open source, au logiciel libre. L'interaction, c'est un moment, moi j'ai pris, et donc j'ai donné. J'ai donné comment ? J'ai donné d'abord, par exemple, en offrant des stages à des personnes qui souhaitent, qui cherchent en fait des stages uniquement dans un environnement open source. Dans ce cas, ça prend du temps à l'entreprise. C'est une rémunération aussi qui est donnée. Il y a un suivi, il y a un transfert de compétences qui est réalisé. Le retour à la communauté, c'est aussi par des dons à certaines fondations de logiciels, des petits projets type GLPI, des projets, en fait, certains petits projets qu'on a utilisés qui nous ont permis de réaliser du chiffre d'affaires. À un moment, J'avais budgétisé une certaine somme qui est redistribuée là-dessus. Après, il y a aussi auprès de l'aspect communauté, on y a contribué et on y prend aussi. Donc, c'est tout ce qui entraide de sociétés qui travaillent dans le logiciel libre. Parce que l'écosystème des entreprises du logiciel libre est constitué d'entreprises avec un nombre de salariés très réduit. Ça va uniquement du porteur du projet à un salarié, deux salariés, trois salariés. Et donc, il y a énormément de problématiques auxquelles on est confronté. On n'a pas la réponse. On n'a pas les moyens de payer un avocat dès le début pour avoir des éléments juridiques. On n'a pas les moyens de payer un expert comptable, etc. Et donc, là-dessus, il y a une entraide qui se crée. Je parle principalement du réseau Libre Entreprise. Donc, c'est un réseau d'entreprises où il y a un réseau d'entreprises qui travaille exclusivement avec le logiciel libre, où il y a une réelle entraide.
Qui sont toutes de petite taille.
Voilà, qui sont toutes de petite taille, d'une personne jusqu'à la plus grande, en fait, que je regardais en 2002 avec des yeux d'admiration. Ils étaient 13, donc c'est Easter Eggs à Paris. Et en fait, il y a un fonctionnement qui est intéressant avec le réseau libre d'entreprise, c'est que tous les mois, on fait des rapports de notre activité, comme si on rendait compte à un actionnaire, en fait, et assez détaillé, les clients pour qui on travaille, les technos avec lesquels on travaille, les difficultés qu'on a, les avantages, les joies qu'on a rencontrées. Et là-dessus, il y a des échanges qui se construisent, donc principalement par mail et par téléphone, sur « ça m'intéresse, ce que vous avez fait, j'ai un avis à apporter là-dessus, je vois que vous êtes en difficulté là, je vais vous aider, je vois que vous n'avez plus les moyens de payer votre hébergeur, ben moi je peux vous héberger gratuitement ». Voilà, là, il y a un fonctionnement communautaire qui est assez fort, entre, on va dire, professionnels du livre, où il y a une entraide. Et accessoirement, il y a eu peut-être deux ou trois échanges de business. Mais l'énorme investissement qui est fait tous les mois sur ces échanges, en fait, c'est principalement de l'entraide et de la facilitation d'éléments aux partenaires.
Alors, le grand silence qui a suivi la question, est-ce que l'éthique était importante? Finalement, la réponse, elle est oui, elle est clairement oui. On voit au travers du témoignage que tu viens de nous apporter que, effectivement, ça transparaît à tous les niveaux. Alors, tu faisais une remarque intéressante sur le fait que souvent, les entreprises de logiciels libres sont de petite taille. À titre d'exemple, l'Inagora qu'on avait juste avant, c'est devenu aujourd'hui 150 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros. Et il y a peu d'entreprises qui atteignent ce ratio entre le chiffre d'affaires et la quantité de salariés. La fondation Mozilla, c'était 12 types il y a 10 ans. C'est, je crois, aujourd'hui à peu près 120-150 salariés aujourd'hui. Tout le monde utilise Firefox. C'est la Mozilla Foundation qui le fait. Finalement, là aussi, il y a quelque chose de plus sain qui rapproche. On parlait dans les années... c'est Ford qui avait dit, alors que c'est l'inventeur du travail à la chaîne, en quelque sorte, qui avait dit qu'il ne pouvait pas y avoir un rapport plus important de 1 à 4 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut. Ce débat du salaire le plus bas, le salaire le plus haut dans l'entreprise est depuis 5-6 ans très à la mode pour essayer de répondre aux abus qu'on constate tous les jours des dirigeants qui touchent des 20 fois, 40 fois ce que touche le type en bas de l'échelle. Donc ça aussi, c'est de l'éthique. Ça aussi, ces nouveaux modèles économiques, ces nouvelles échelles de valeur qui sont beaucoup plus raisonnables et beaucoup moins spéculatives dans le logiciel libre par rapport à l'économie du logiciel propriétaire dont on est en train de sortir inéluctablement. Finalement, oui, la question de l'éthique, elle transparaissait dans tout le témoignage que tu nous as apporté. Alors, il faut préciser que là, on va rentrer dans l'aspect portrait de Hatim Bekali. Tu as une double formation à la fois managériale et technique.
Pas du tout.
Alors c'est amusant. Non. Parce que en tout cas, c'est le témoignage que tu ressors. Tu es le gérant de la société. Oui. Tu me disais toi-même que les questions les plus pointues techniquement, tu as des techniciens qui sont plus informaticiens que toi-même. Alors qu'est-ce qui t'a amené finalement à occuper ce poste de gérant?
Ça s'est fait par la force des choses. C'est-à-dire que donc initialement, j'ai fait des études de maths fondamentales.
Ça aide beaucoup à l'informatique.
Tout en détestant l'informatique, en fait. Disons, tout en évitant, en fait, les cours d'informatique. Et il se trouve qu'après mon DEA de recherche opérationnelle, il y a une opportunité qui s'est présentée d'une société qui se créait et qui cherchait une personne système et réseau. c'était une start-up, c'était 99, c'était à Paris, c'était l'effervescence. Donc du coup, j'ai mis de côté en fait mon diplôme et mes études pour tenter et découvrir cette expérience start-up. À un moment, voilà, on m'a dit, bon, ben, on ne sait pas quoi te dire, on ne connaît pas du tout le domaine système réseau, tu vois ce que tu peux faire, on te donne 1500 francs, tu vas acheter ce qu'il faut et t'apprends. Donc moi, j'ai pris le challenge, ça m'intéressait. De toute façon, je ne me voyais pas faire un doctorat de maths fondamentales parce que bon, les débouchés sont un peu limites.
Ouais.
Et donc, du coup, je suis allé à la FNAC voir les livres, j'ai vu Linux, j'ai vu, bon, je connaissais un peu, j'ai vu TCP/IP, j'ai vu Réseau, j'ai vu Apache et j'ai acheté plein de livres. Et j'ai bossé en 2 mois d'été, ce que j'ai jamais bossé durant de toute ma vie en informatique, en tout cas. Et voilà, c'est là que j'ai pris le contact avec Linux. Et comme c'était une start-up, on avait peu de moyens. Donc, l'aspect, évidemment, gratuité a primé sur toutes les autres solutions. Et moi, je leur ai dit, de toute façon, moi, si vous voulez que je travaille, c'est avec ça. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir, à toucher vraiment ce que voulait dire la communauté d'entraide. Dans les années 99, bon, j'avais entendu parler, mais je ne l'avais pas vraiment senti. Là, j'ai vu, voilà, j'avais bloqué. Je montais mon premier serveur de messagerie à haute disponibilité. Bah, il fallait chercher ce que c'est. J'ai vu des communautés. Je suis parti les voir. J'ai vu des associations. Donc, c'est là où il y a eu vraiment entraide. Donc, j'ai découvert et je me suis englué, on va dire, dans l'aspect communautaire de l'open source. Voilà, et donc j'ai acquis cette expertise technique pendant des années avec la montée en puissance de l'entreprise. Mmh. Ça marchait très bien, on avait une cinquantaine de serveurs en cluster, en haute disponibilité, etc. J'avais une petite équipe. Finalement, l'entreprise, bon, pour des raisons de conflit entre actionnaires, s'est arrêtée. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à chercher un emploi suite au licenciement économique. Et donc, comme je l'ai expliqué, voilà, par la force des choses, je me suis retrouvé à déposer un numéro de SIRET, disons, à déposer un dossier pour un SIRET. Et là, j'étais devant le fait accompli. Et j'aurais pu continuer tout seul, en fait. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, c'est tellement génial de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de bosser qu'avec des technologies qui m'importent beaucoup et de partager ça comme je le faisais, qu'à un moment, de toute façon, avec la taille des projets acquis, je ne pouvais pas. Je commençais à faire de l'audit et de l'hébergement. Je ne pouvais pas faire de l'hébergement si on n'était pas au moins 2 ou 3. Mmh. Et donc, c'est là où donc, du coup, petit à petit, bah, j'ai recruté une première personne. Puis, dès lors qu'économiquement, c'était possible, 3e, 4e, 5e. Donc, je me suis retrouvé, du coup, à apprendre sur le tas en achetant un livre ou deux et en me conseillant par des anciens l'aspect gestion d'entreprise avec tous les éléments administratifs, comptables, fiscales... et organisationnel, l'aspect management aussi. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup moins de techniques qu'au début, ce qui pour moi est un peu difficile aussi à accepter, mais voilà, c'est une mutation. C'est-à-dire que dernièrement, on a investi dans beaucoup de matériel pour monter notre première solution de cloud open source. Donc c'est un cloud en France 100% open source, en logiciel libre et BSD. Et... pour moi, c'était tellement chouette d'aller dans ce sens qu'à côté, j'étais frustré de ne pas pouvoir moi-même monter les architectures, tester les premières solutions, intégrer, etc. Mais pour le bien de la société, bon, à un moment, voilà, y a une partie technique, une partie commerciale, une partie avant-vente. Donc à un moment, il faut tenir son poste. Et le soir, quand j'ai un peu le temps, bon, bah, je suis l'aspect technique. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que je m'écarte de l'essence même qui a fait que j'ai créé cette société. Mais bon, je me dis, voilà, ça permet à ce qu'il y ait une société 100%, qui travaille que 100% dans les logiciels libres à Montpellier. C'est d'autres sources de satisfaction et de joie qui m'animent.
En tout cas, Tim, on rappelle que Siloé, on peut retrouver ça sur siloé.fr.
FR. S-Y-L-O-E.
Voilà, on peut découvrir vos champs d'expertise, votre travail. Et puis, on continuera à faire ce tour régional ou montpelliérain des entreprises du numérique libre. Prenons de l'avance. En tout cas, merci pour ces quelques minutes que tu nous as accordées.
Bah, merci pour votre invitation et puis à très bientôt.
À bientôt.
Merci.
«
C'est ainsi que se referme cette 184e divergence numérique. Nous n'aurons pas eu le bonheur de pouvoir écouter la musique de Santiago Louvette. Trop d'interviews. Promis, nous ferons un truc beaucoup plus sonore la semaine prochaine. En tout cas, on vous souhaite de passer une excellente semaine, de rester libre. N'oubliez pas monpel-libre.org pour tout ce qui concerne l'actualité des activistes du libre à Montpellier, ou agendadulibre.org.be.ch.qc.ca pour tout ce qui concerne l'Hexagone et plus loin. Restez libre, on vous souhaite une excellente semaine. Salut. Terrorist networks. Terrorist states. Terrorists will acquire weapons of mass destruction. Terrorists will acquire weapons of mass destruction.